Bonjour et bienvenue sur Doula Lire, le podcast qui informe par une doula qui écoute. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais tout le monde n'aime pas lire, tout le monde n'a pas le temps de lire. En revanche, un podcast, ça s'écoute facilement. Vous pourrez donc retrouver ici, très simplement, le meilleur de chaque ouvrage en périnatalité qui me passera entre les mains. Libre à vous ensuite d'aller creuser plus dans l'ouvrage originel. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue sur Doula Lire. Cette semaine, j'ai lu pour vous « Tu accoucheras dans l'extase » du docteur Marie-Pierre Goumy aux éditions Mama Édition. Alors Marie-Pierre Goumy, elle est docteure en médecine généraliste, mais également acupunctrice et homéopathe. Parce que même pendant ses études, elle a commencé à s'y intéresser et s'est formée dans ses spécialités dès sa sortie d'études générales. Derrière, elle a eu un enfant et elle s'est arrêtée de travailler durant la grossesse pour pouvoir vraiment la vivre pleinement. Elle a toujours eu l'idée, après son accouchement, d'écrire ce livre, mais il lui aura fallu quelques temps pour réussir à concrétiser cette idée à cause du fait qu'elle avait un petit peu moins de temps à consacrer à l'idée de ce livre après la naissance de ce bébé. Elle prône vraiment le fait que ce livre, ce n'est pas un exemple à suivre, mais un témoignage du fait que l'accouchement extatique, ça existe et que non, tous les accouchements ne se passent pas dans la douleur pure. Alors pour ça, elle a eu recours à plusieurs choses, notamment elle a eu recours au champ prénatal. Alors elle en parle très bien du fait que le champ prénatal, ça engendre les mêmes hormones dont on aura besoin le jour de l'accouchement, c'est-à-dire des endorphines et de l'ocytocine. Pour rappel, l'ocytocine est nécessaire au niveau de l'utérus qui est bourré de récepteurs d'ocytocine afin de bien contracter durant l'accouchement. Et l'endorphine, c'est l'hormone qui est sécrétée lors des pauses entre les contractions et qui réduit la douleur au maximum. Ce sont des morphiniques naturelles. De plus, il va s'agir d'un bain vibratoire pour le fœtus jusqu'à ses 5 mois. Après cela, le fœtus aura développé une ouïe et il pourra donc aussi avoir un bain sonore. Il faut savoir qu'au niveau embryonnaire, le périnée et le pharynx ainsi que les cordes vocales ont exactement la même origine. Ce qui explique tout l'intérêt de chanter pour relâcher les muscles au niveau de la gorge, donc le pharynx, les cordes vocales, afin de relâcher également le périnée et le détendre pour que tout suive son cours. Notamment, ça va vraiment être les sons graves qui vont aider à l'ouverture du périnée. En plus, ça va apprendre à respirer, puisque pour le chant, c'est quand même assez impératif de respirer. Chanter en apnée, c'est plus compliqué. Ou en tout cas, la chanson dure pas longtemps. Le souci derrière, c'est qu'il va falloir oser chanter lors de l'accouchement pour pouvoir aussi mettre en pratique tout ça. Alors, elle a eu, avec des gros guillemets, de la chance, c'est-à-dire que les séances de chant prénatal était donné dans la maternité, ce qui est quand même pas le cas partout. Et ça permet de savoir que effectivement dans cette maternité, ils sont ouverts à ces pratiques, ils connaissent, etc. Et quand lorsqu'on va arriver, on aura déjà moins de pudeur à chanter. Peut-être qu'également les sages-femmes auront moins de difficultés aussi à le proposer, puis à chanter avec la patiente, etc. C'est intéressant. À comparer si c'est une préparation que l'on a fait en dehors de l'hôpital, avec une coach en chant prénatal, etc., ce sera peut-être plus compliqué de s'autoriser à chanter lors de l'accouchement. Alors une fois qu'on est dans la bulle, il n'y a pas de problème, hein, les femmes s'y autorisent. Tant qu'elles ne sont pas dans leur bulle, c'est plus compliqué. Il faut laisser la place à... Il faut savoir lâcher prise à ce moment-là. Et ça, c'est difficile pour l'humain, lâcher prise. Pendant la grossesse, elle a également choisi d'être suivie par une psychogénéalogue, c'est-à-dire de parler de tous les traumatismes, etc., qui ont pu toucher ses ancêtres, pour notamment mettre à jour des schémas. Alors là, pour le coup, c'est pas sourcé du tout, mais en tout cas, elle en parle très bien de son témoignage dans le livre. Son but, c'était vraiment de retrouver des traces de schémas qui se répétaient avec des traumatismes, notamment pas mal d'accouchements traumatiques dans sa famille, afin de ne pas répéter les engrenages qui sont présents dans sa famille. Non sourcé peut-être, mais ça reste intéressant à savoir, je trouve, que ça existe. Ça peut poser la question, en tout cas, de savoir si le « tu enfanteras dans la douleur », c'est une condamnation biblique ou juste un schéma qu'on se transmet de génération en génération. D'ailleurs, ça pose une autre question encore, c'est que l'accouchement extatique, on en parle très peu. Et par rapport à la culture qu'on a qui est le tu enfanteras dans la douleur, ça peut être à peu près logique puisque soit souvent c'est une expérience qui est déniée, c'est pas possible, t'as pas pu vivre ça, je n'y crois pas. Ou carrément juste simplement de la jalousie, ce qui peut être entendable hein, quand une maman a souffert pendant 24 heures, savoir que quelqu'un a eu un orgasme en accouchant, bah, ça peut provoquer de la jalousie, hein. Ça peut donc être ici une des raisons, en tout cas, qui font qu'à l'heure actuelle, l'accouchement extatique est quelque chose de très peu connu. Bien dommage, mais c'est comme ça. Elle a également suivi une préparation à la naissance en autonomie avec son compagnon. Mais pour m'être renseignée, c'est également possible de faire de l'autonomie seule, selon les praticiens, ou avec une amie très proche, etc. Selon le praticien. Elle l'a notamment choisi puisque, à l'heure actuelle, l'autonomie, c'est la seule préparation à la naissance qui se fasse avec le coparent. Ce qui est quand même impressionnant. Notamment, j'avais lu dans un autre livre que c'était le seul interlocuteur qui demandait au futur papa comment ils se sentaient eux. Et sinon, ils n'étaient pas vraiment pris en compte. Alors, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai pas trop. Par contre, l'autonomie, il faut savoir que le Centre international de recherche et de développement de l'autonomie recommande suivre une préparation à la naissance en yoga prénatal et en autonomie. Il faut choisir l'un ou l'autre, donc soit le yoga prénatal, soit l'autonomie. Elle a choisi également d'être suivie par une sage-femme spécialisée en acupuncture. Alors pour une médecin généraliste spécialisée en acupuncture, ça peut se comprendre, notamment parce que elle avait conscience qu'elle ne pourrait pas atteindre tous les points, en tout cas pas tout le long de sa grossesse, pour se la faire à elle-même. Elle a donc choisi de se référer à quelqu'un d'autre. Elle appuie notamment sur le fait que l'acupuncture, c'est vraiment un très bon moyen durant la grossesse de traiter pas mal de maux, puisque beaucoup de traitements sont interdits pendant la grossesse. Or, l'acupuncture reste bonne, il y a quelques points à éviter, mais les acupuncteurs les connaissent. Il y a également une notion qui me paraît essentielle, c'est le fait qu'à aucun moment elle n'a été intimidée par le milieu médical. C'est-à-dire que la plupart des sages-femmes qui accouchent dans leur propre maternité où elles travaillent ont des accouchements beaucoup plus faciles que les femmes qui viennent de l'extérieur. Parce qu'en fait, pour elles, c'est une maison. C'est les odeurs, elles les connaissent. Elles connaissent très bien le personnel. Elles ont confiance dans leurs collègues. Donc, tout ce qui favorise finalement un accouchement physiologique. Tandis que des personnes qui ne connaissent pas forcément la maternité, qui n'y viennent que pour la première fois, pour s'inscrire à la maternité et éventuellement pour réaliser l'accompagnement prénatal, c'est beaucoup plus intimidant. Potentiellement, ce sont des personnes qui vont s'y sentir beaucoup moins en sécurité qu'une personne qui travaille ou qui a travaillé ou qui a côtoyé des collègues pendant quelques années. Elle insiste également sur un tout autre sujet, sur le fait qu'il ne faut pas attendre d'être avancé dans le travail pour accompagner les contractions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les premières contractions, il faudrait vraiment se concentrer dessus et souffler, chanter, visualiser, enfin bref, ce que vous avez choisi comme technique. Mais ne pas s'obstiner à dire ah non, non, mais ça va, c'est des petites contractions, je m'en moque et puis je vais continuer le ménage, comme ça ira plus vite. Vraiment bien vivre ces contractions, vraiment plonger dedans. Et puis après, il y a une pause qui est quand même assez longue puisque vous serez sur le début et vous pourrez reprendre le ménage si vous voulez. Mais bien vivre ces contractions dès le début. Après, du coup, bah, y a plein de possibilités, soit par le chant, soit par la marche, vraiment accompagner ses contractions. Elle parle d'une visualisation qui lui avait été recommandée par sa sage-femme et qui m'a beaucoup fait rire. C'était visualiser le col comme une coupe poire chocolat, donc avec le chocolat qui coule sur la poire comme le col qui fondrait et s'étirerait pour s'ouvrir. Moi, je trouve ça très très beau comme visualisation. Et enfin, elle parle du fait que l'homéopathie l'a vraiment beaucoup aidée pendant sa grossesse. Alors, à aucun moment, elle ne donne de conseils médicaux dans son livre. Elle rappelle bien que l'automédication et la prescription en masse, ce ne sont pas des techniques qui sont fiables. Un vrai conseil en homéopathie, c'est un homéopathe qui le donne après avoir fait une anamnèse, donc un recueil de données vraiment précis, comme un acupuncteur. C'est pas on va chercher dans un livre et ah bah oui, ça a l'air d'être ça, on va prendre ça. Mais au-delà de ça, elle avait pris quand même un traitement pour l'anxiété en homéopathie pour tout au long de son accouchement. Elle a commencé à le prendre en partant pour la maternité. Et avec, elle avait pris un mélange de fleurs de Bac qui s'appelle le Rescue, qui est un mélange du coup à prendre en cas d'urgence pour des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et elle en avait dilué quelques gouttes dans des bouteilles d'eau qu'elle buvait du coup tout le long de son accouchement afin d'avoir une dose d'anti-anxiété tout le long de son accouchement. Et donc son accouchement s'est très bien passé, elle a donc accouché dans l'extase. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi un extrait qui conclut plutôt bien ce que peut dire ce livre. L'écriture de ce récit m'a permis de revivre les sublimes sensations d'extase, de paix et de joie simples qui l'ont nourri. Ce partage avec vous, lectrice, lecteur, vous amènera, je l'espère, à croire qu'une autre forme d'accouchement de la naissance est possible. Donner la vie, donner la lumière en douceur, en extase, est une étape de vie merveilleuse gravée en moi pour toujours. Accepter de ne pas contrôler mentalement, se laisser guider par son propre corps, voici des notions importantes, surtout dans notre société qui a l'illusion de tout contrôler, même la vie. C'est une erreur de croire qu'un accouchement par analgésie péridurale sera forcément plus simple et moins douloureux. Il pourra être nécessaire, bien sûr, le cas échéant. Il ne s'agit ni de décrier les formidables avantages de l'analgésie médicamenteuse, ni d'omettre les complications en lien avec l'accouchement ou les grossesses à risque. La femme a la force et l'instinct de savoir quelle est sa meilleure position lors du travail. Accoucher sur le dos sur une table d'examen n'est pas une position physiologique naturelle. Cette posture bloquant la bascule et les mouvements du bassin est devenue à la mode au XVIIe siècle pour le confort des chirurgiens accoucheurs qui dénigraient les sages-femmes. Il est heureux de constater que les recommandations nationales et internationales ont évolué à ce sujet. Des maisons de naissance autorisées dans le cadre d'une expérimentation ont vu le jour en France. Cela correspond au souhait des femmes d'accoucher dans le respect du processus physiologique avec, notamment, une prise en charge technique si nécessaire, une liberté posturale, une surveillance du rythme cardiaque fœtal en discontinu et une prise en charge non médicamenteuse de la douleur. Dans notre société patriarcale, où la violence est encore trop souvent de mise, consciemment ou non, s'autoriser la douceur et la bonté au plus profond de son intimité est primordial. Réussir à dépasser ses doutes, ses peurs, quelles qu'elles soient, peur de souffrir, peur pour la santé de son bébé, peur de ne pas y arriver, peur de mourir, dégager toute perturbation et pensée néfaste, déstabilisante, enfermante, et s'affranchir de toute croyance préétablie sont également des clés fondamentales. La vie est sacrée. À nous de l'accueillir avec respect, confiance et amour. Les témoignages d'accouchement, sans douleur ou dans le plaisir, l'extase, sont nombreux. J'ai été étonnée de constater le nombre de liens vidéo et blogs à ce sujet sur Internet à travers le monde. Les répertorier sera un travail colossal, les prendre en compte est indispensable. J'ai été amusée en lisant ces récits de retrouver mes propres mots dans la description des ressentis d'autres parturientes. Ouverture, passage, archaïque, puissance, force, énergie, hors temps, lâcher prise, couper le mental, se mettre dans sa bulle, décorporation. Ces femmes décrivent, tout comme moi, la nécessité de se couper de l'extérieur, ce besoin d'intimité, de sécurité et l'envie irrémédiable de bouger leur bassin. Souvent, ces accouchements ont eu lieu dans l'eau. Des femmes à l'étranger choisissent même de donner naissance dans l'eau, accompagnées de dauphins. L'énergie sexuelle, au cœur de la conception et de la grossesse, se libère au moment de l'accouchement, offrant l'extase, voire une naissance orgasmique dans l'apogée de sa réalité créatrice. À nous d'accueillir sans tabou la désobéissance salvatrice à l'anathème qui incite à enfanter dans la douleur. Et d'y recevoir par là même une invitation à l'accouchement transcendantal, extatique. Car si, plutôt que d'accoucher dans la douleur, nous accouchions dans l'extase. Alors voilà, on va bientôt se quitter. Il est temps de vous présenter mes points positifs et négatifs. Et j'ai pas trop de points négatifs, si ce n'est que effectivement, je pensais que ce serait plus un guide ou que ça donnerait peut-être des conseils. Et en fait, non, c'est vraiment un témoignage. Une ouverture au monde de ça existe. Et c'est vraiment bien comme ça. Et en point positif, alors j'ai adoré, à la fin elle propose une playlist à écouter en lisant, en accouchant, etc. J'ai trouvé ça génial. Une playlist également qu'on peut servir pour le chant prénatal. Bref, vraiment, je trouve que c'est une super bonne idée. Elle décrit donc les méthodes par lesquelles elle est passée, le champ prénatal, l'aptonomie, la psychogénéalogie, l'acupuncture de façon vraiment précise, sourcée, etc. C'est vraiment idéal, précis, c'est parfait. Et elle fait le point sur la physiologie, les hormones, de manière très simple, efficace et douce. Et j'apprécie énormément de rendre ça facile à lire. Voilà. C'était Aurore Lebecq sur Doula à lire. Je vous ai présenté Tu accoucheras dans l'extase du docteur Marie-Pierre Goumi aux éditions Mama Édition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter, quelle que soit la plateforme. Ça le fera connaître, ça ne peut que l'aider. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ou en message privé sur Instagram les livres que vous aimeriez que je synthétise à l'avenir. À mercredi prochain!